Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Le désir, pour moi, il s'est construit. Ça concerne tout le monde.
D'autres constellations qu'on va aller tisser.
Une espèce de lumière.
J'ai eu besoin d'écrire sur l'amour parce que je ne crois plus qu'il y ait quoi que ce soit à reconstruire ou à réinventer. Il faut détruire l'idée d'amour. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Magé à l'occasion de la publication de son ouvrage « Ne plus tomber en amour, récit d'une dissidence affective » aux éditions X. Le festival d'amour, c'est parti. Je te souhaite des présences qui prennent soin de ta solitude. Ce souhait de Mélanie Leblanc m'est apparu en début de semaine quand le tourbillon de la vie me faisait dire « l'amour, c'est nul ». Autant vous dire qu'en plein festival d'amour, il aurait été dommage que je trouve ça vraiment nul, l'amour. Depuis 3 semaines, nous parcourons les livres, les histoires avec grand enthousiasme, serrant en nos cœurs ce qui nous lie tous ici. L'envie d'être joyeuse en ces amours pluriels qui embrassent nos amitiés, nos familles choisies, nos espoirs et nos victoires. Magé, je te reçois ce soir puisque, comble du destin, nous clôturons le festival avec toi et ton livre « Ne plus tomber en amour ». Ok, ce n'est pas anodin, c'est certain, et ton audacieuse proposition a le mérite de répondre clairement à la question générale « Comment s'aimer mieux ?» Eh bien, on ne s'aime pas romantiquement. J'entends déjà les cœurs se briser, les souffles se suspendre, les mains se crisper. Détendez-vous. Tu ne nous abandonnes pas à notre triste sort d'âmes esselées. Tu nous tends la main en nous souhaitant un bon shot d'ocytocine, sans mal de cœur. Et ça, c'est réconfortant. Bonsoir Magé.
Bonsoir.
Donc, comme on l'a entendu, c'est quand même pas anodin de te recevoir pendant un festival d'amour. Qu'est-ce que tu t'es dit quand je t'ai envoyé l'invitation ?
Comme donc toi et tes collègues, vous avez pris soin d'être vraiment très gentils dans le mail, de dire que le livre vous avait beaucoup plu, je me suis pas dit que c'était un piège. Je me suis dit, oui, effectivement, en fait, les personnes qui questionnent, qui se demandent comment aimer mieux, en fait, on a les mêmes questionnements. Et même, des fois, on en parlait un petit peu en aparté tout à l'heure, on a les mêmes réponses. Donc voilà, j'ai trouvé ça... Assez drôle qu'après dans les échanges, effectivement, moi pour la date c'était mieux à la fin du festival et ça s'est tombé comme ça et t'as trouvé que c'était assez drôle comme idée, donc voilà. J'ai trouvé ça assez ironique et assez fun, voilà. Et puis quand on parlait de l'affiche du festival, voilà, et que je l'ai vue tout à l'heure, je me suis dit bah oui, en fait il n'y a pas de doute que la discussion là, elle a sa place dans le festival.
Ah ben c'est sûr que tu es au bon endroit, au bon moment. D'autant que, en fait, ton titre, c'est « Ne plus tomber, entre parenthèses, en amour ». Cette petite marque de ponctuation, elle n'est pas anodine non plus, parce que ça veut dire que « ne plus tomber, tout court, pourrait exister aussi ». Comment s'est construit cette écriture-là ? Parce qu'on sait, et on le lit dans ton essai, dans ton récit, que les mots, c'est pas anodin, que les mots qu'on choisit sont déjà un peu déviants. Enfin, en tout cas, ça nous envoie déjà dans certaines idées, certaines images. Mais donc, de là, de jouer sur un double sens possible, comment ça s'est passé pour toi, ce titre ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce titre, je ne l'ai pas choisi toute seule. Et c'est justement dans cette discussion avec l'éditrice qui s'appelle Ristal Bonis et qui se trouve être dans un livre que vous avez présenté plutôt dans le festival. Et l'amour aussi.
Et l'amour aussi de Marie Douchet, oui.
Alors moi, au début, comme titre, je voulais mettre juste « Ne plus tomber ». Point. Et avoir juste ça. Mais c'est vrai que c'est assez mystérieux. Comme elle a quand même elle maîtrise très bien les mots et elle a des bonnes idées, moi j'avais pensé à ne plus tomber amoureux X, SE, mais j'avais encore pas lu le livre sur les innovations typographiques et la langue non-binaire, donc ça aurait fait un petit peu lourd. Et elle, elle a pensé à cette expression qui est en fait une expression québécoise et qu'elle aimait beaucoup et qui rendait toute la chose plus explicite. Donc c'est vraiment voilà, une idée de cette discussion à deux, qui est aussi une discussion qu'on a eue dans tout le livre. Et ce résultat final, c'est vraiment un travail qu'on a fait à deux. Moi, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus oral, de beaucoup plus proche aussi des écritures des brochures. Et elle, elle a amené quelque chose d'un peu plus construit qui, sur la durée d'un livre qui, sans être très long, est quand même, prend un peu son temps, et en fait, beaucoup, beaucoup plus facile à lire. Donc, il y a aussi tout ça qui s'est noué dans la construction même du livre.
Oui, c'est vrai qu'on est sur un... Alors, j'ai dit un récit, des endroits où, en fait, tu parles au jeu et tu expliques, en fait, ton cheminement. Quand on ouvre... Et en fait, non, c'est même sur le titre. C'est-à-dire, quand on ouvre le livre, on a une petite précision, mais il est écrit en tout petit sur la couverture. Récit d'une dissidence affective. Dissidence, c'est pas anodin, comme je dis beaucoup anodin aujourd'hui. C'est un choix quand même très particulier, parce que quand on entend ce mot-là, c'est vraiment cette impression vraiment de se séparer d'un groupe, d'un mouvement, d'une religion, d'un système politique, d'une construction sociale. Donc c'est vraiment ce truc de... Tu t'es enlevé, tu sens qu'en fait, en positionnant comme ça, tu sors du lot.
Oui, je le sens par les retours de bâton. Je le sens par le fait qu'en fait, on ne me laisse pas si facilement que ça sortir du lot, ou en tout cas le dire, et qu'on cherche souvent à me ramener dans cette norme, et qu'en fait, l'amour... on s'en rend compte quand on cherche à en sortir, c'est aussi une norme dans laquelle on cherche à nous remettre. Et c'est, dès qu'on cherche à en sortir et où là on nous dit non, mais de toute façon, tu verras, tu seras surprise, un jour tu vas tomber amoureuse, ou bien qu'on cherche à me faire ma psychothérapie en me disant que j'ai des troubles de l'attachement ou ce genre de choses, et qu'on va toujours ramener à des choses qui sont indépendantes de moi et enlever cette dimension de l'amour c'est un choix. En fait, on choisit, et moi j'ai choisi de ne pas. Donc c'est ça cette dissidence aussi, c'est par rapport à cette norme, à ces rappels à l'ordre, etc.
Oui, parce que là, tu l'exprimes déjà, le vrai sujet... c'est de dire « stop, j'arrête, je ne veux plus, je ne suis plus intéressée par l'amour ». Et donc, bon, comme j'ai pu le dire un peu, ça peut être entendu comme très radical, se dire « c'est fini ». Après, c'est pas exactement ça. C'est l'amour comme construction sociale que moi j'attribue plutôt, par exemple, au couple, donc c'est-à-dire à faire unité avec une autre personne, et ce qui enclenche tout un système de vie. En plus de ça, c'est pas juste... on s'aime, c'est tout ce qui se construit du vivre ensemble, de l'appartenance, de tous ces sentiments qui peuvent parfois être contradictoires, etc. Et donc, comme tu le dis, il y a une tension qu'on peut vraiment palper en fait, chez des personnes qui peut-être ne se sont jamais posé la question de ne pas être en couple. Tu penses pas qu'il y a ça aussi ? Il y a des gens qui pensent que c'est obligatoire, en fait, que pour vraiment vivre une vie, il faut être à deux.
Oui, mais du coup, ma critique, elle n'est pas seulement sur le couple, elle est sur l'amour amoureux, pas l'amour filial ou d'autres formes d'amour comme ça. Moi, je me suis vraiment concentrée sur l'amour amoureux et je critique tous ces aspects-là. Donc aussi le polyamour, aussi toutes des formes de personnes qui ne se reconnaîtraient pas forcément dans le couple. Et là, j'essaye et je m'efforce dans le livre de toujours parler de moi, de je. Je suis enseignante et chercheuse. Et c'était plus une démarche de prendre dans mon expérience de la matière pour une recherche. En tout cas, moi, dans mon rapport au couple, j'avais aussi envie de critiquer le polyamour. J'avais aussi envie de critiquer des moments où je vais parler de relations amoureuses, de plusieurs relations, de même en sortant du terme polyamour. Mais c'était tout ça aussi que j'avais envie de critiquer, et pas uniquement le couple. Mais effectivement, ce qui gêne, c'est quand on critique le couple, mais là où on me dit « non, tu ne pourras pas y échapper », c'est pas sur le couple, c'est sur l'amour, c'est vraiment sur le sentiment amoureux.
Ok, comme si au final, et je sais que c'est un mot que tu critiques, mais il s'avère que je pense qu'on ne l'utilise pas de la même manière, donc le principe de relationner,
oui.
Parce que moi, pour le coup, tu me donnes l'exemple de « on ne dit pas qu'on relationne avec sa mère », et j'ai « ben si ». Mais
ah, oui.
Bah oui, parce que pour moi, c'est vraiment juste d'être ensemble, Mais tu vois, on dit être ensemble, et tout de suite, ouais. Ben, en fait, il y a un autre imaginaire qui peut arriver aussi. La question du vocabulaire, elle est hyper intéressante que tu questionnes. C'est vraiment de se dire, c'est juste, on est en relation interpersonnelle. Mmh. Tu vois, pas forcément, en effet, intime ou en tout cas amoureuse, mais pour moi, c'est un terme que j'utilise beaucoup, de dire relationné avec des gens en général, et pas forcément de manière amoureuse. Mais... tout ce questionnement que tu lances de ce fait dans cette relation entre deux personnes, on va quand même utiliser ce mot-là parce que moi j'en ai pas d'autre, à moins que t'aies se lier. Je crois que tu parles de lien.
Lien, c'est pas mal, mais en même temps c'est aussi ce qui lie. Enfin voilà, là c'était plus des tentatives de vocabulaire que vraiment quelque chose de très affirmé.
Mais c'est hyper intéressant parce que de ce fait, si on se pose la question de vraiment être juste dans la façon dont on veut décrire ce lien, ben on est vite limité en fait au final. Donc il va falloir inventer des nouveaux mots. pour autant, ce qu'on entend ici, donc tu appuies bien sur le fait que c'est ce principe d'être amoureux-amoureuse qui pose problème. Et c'est vrai que comme si, en fait, toute relation interpersonnelle devait produire quelque chose, et notamment ce sentiment-là. Ça, c'est quand même assez particulier. On se dit, en fait, la rencontre, en fait, de deux personnes qui se soient dans un cadre, je me dis, en hétérosexualité, on s'y entend parce que on croit pas en l'amitié homme-femme, par exemple. C'est vrai, c'est encore fort difficile. Dès que des hommes et des femmes se côtoient, on a l'impression qu'il y a une histoire d'amour qui va naître derrière. C'est encore fort, c'est-à-dire.
Probablement. En tout cas, si ça arrive dans une série, effectivement, on se doute que... Voilà.
Entre deux personnes, deux hommes, deux femmes, peut-être qu'on attend plus longtemps avant d'avoir des doutes sur le fait que ça devienne une histoire d'amour ou pas. Mais...
sauf si c'est une série sur Netflix, auquel cas ça donne quand même aussi des indices. Mais...
en tout cas, d'avoir toujours cet endroit de projection qui arrive très rapidement... au final, peut-être même plus vite que dans la tête des personnes concernées, en fait. Là, c'est tout ce dont tu vas nous parler, c'est tous ces endroits, en fait, où on met beaucoup plus de sens rapidement que dans la vraie relation qui est en train de naître, en fait. C'est ça, tout ce qu'on projette, c'est de la projection, en fait, dont tu parles beaucoup.
Ouais, effectivement, c'est beaucoup sur ce qu'on va projeter sur la suite comment est-ce qu'en fait, on détourne des moments qu'on est en train de vivre au présent. Qui vont être très beaux, très intenses, ou plein de désirs, ou plein de plaisir, ou plein de joie, j'ai le mot devant moi, de complicité, de compréhension, de confort, de sécurité. Et bien tout ça, on va le projeter sur la suite, et dans la relation amoureuse, ça arrive de manière d'autant plus importante. Et c'est beaucoup ça que je critique dans la relation amoureuse, c'est qu'on essaye de sécuriser la suite. On essaye il y a la notion d'engagement qui est très forte dans la relation amoureuse. Et en fait, toutes ces projections-là, elles se nouent dans quelque chose qui nous engage sur l'avenir et qui font que ça enlève aussi de la beauté au moment qu'on est en train de vivre. Ça devient un plan cul. Et je sais pas, ce mot-là... après, ça a été détourné par RERQ, donc super. Mais je trouve que ça amoindrit énormément que si on ne projette pas plein de choses sur ce qu'on est en train de vivre, alors ça devient plus si important.
Ah oui. Mais c'est vrai que c'est une proposition que tu fais dans le livre et qui est très poétique et très belle, c'est de finalement aller vers des principes de bulle. Ça, c'est... parce que pour le coup, cette réponse de « on ne tombe plus en amour », mais il y a plein d'autres choses. Je pense que tout ton livre ne s'arrête pas juste à cette phrase point. C'est de dire comment en fait, continuer à rencontrer des personnes, à avoir des liens qui ne vont pas être liés de ce fait à l'amour, mais à des sensations de plaisir, de contact. On a parlé hier d'ocytocine. T'en parles aussi dans ton livre de l'ocytocine, donc l'hormone de l'attachement, de tous ces... En fait, il y a un moment donné, on doit pouvoir dissocier en fait, le fait d'être intime avec une personne sans pour autant en fait, tomber dans l'amour. Et donc, tu mets en place un système de bulles.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette affaire ?
De vraiment laisser au présent ce qui est en train de se passer, de créer une bulle et de pas laisser aussi le monde extérieur projeter des tas de choses sur ce qu'on est en train de vivre avec la personne. Parce que très vite, alors en particulier en famille, mais même auprès des amis, En fait, voilà, on arrive à une soirée avec une personne et on a l'air d'être un peu proche, et bah automatiquement, ça va être, des choses qu'on va projeter, des questions ensuite. Donc, c'est aussi créer une bulle pour nous et pour les autres personnes. Et tu disais, l'amour, c'est créer ses liens, si je ne détourne pas ce que tu as dit. Et pour moi, l'amour ne crée pas de lien. Il crée un lien. Mais en fait, il empêche d'en créer d'autres. Pour moi, l'amour, ça désocialise. Et c'est aussi ça qui est difficile dans la rupture, en fait. Je me suis beaucoup intéressée à la rupture parce que je trouvais qu'elle rendait lisible tout un tas de choses. Voilà, on parlera peut-être des autres plus tard, mais notamment le fait qu'en vrai, ça nous a beaucoup désocialisé. Ça nous a beaucoup coupé de toutes les autres personnes parce qu'on a centré, on a priorisé sur une personne. Mmh. Donc faire des bulles, c'est vraiment parler au pluriel et avoir ces moments. Avec d'autres personnes, est-ce que ça va être des moments de complicité comme dans le sexe ou pour moi dans la musique par exemple, il y a tous ces moments où on n'a plus besoin de parler, on a cette compréhension qui est vraiment quelque chose de très important pour moi, d'avoir quelqu'un qui comprend et des fois sans mots, mais sans projeter sur toute la suite, est-ce que la personne va aussi me sécuriser par rapport à ma peur de la mort, est-ce qu'elle va aussi me montrer que je suis unique, est-ce qu'elle va aussi me faire entrer dans une famille, tout ça, enfin c'est les bulles, c'est vraiment comme un studio de répétition pendant 2 heures quoi, voilà, c'est ça pour moi une bulle.
Mais de ce fait, voilà, quand on parle de cet endroit là de projection qu'on n'applique plus, en fait on entend comment ça ne peut pas durer, les bulles, peut-être. Parce que, en fait, à partir du moment où il y a peut-être une relation suivie, ben ça doit... Enfin, puisque c'est pas une habitude, puisqu'il y a peu de modèles, puisqu'on ne sait pas très bien, et puis qu'il y a toutes ces questions d'hormones qui sont quand même un peu compliquées à gérer, est-ce que le fait de pouvoir se voir plusieurs fois, ça ne crée pas finalement des liens d'attachement, etc., et que sans forcément le vouloir, ça va... Alors si c'est peut-être pas de l'amour, mais en tout cas ça va créer une connivence, une complicité à plus long terme en fait. Peut-être. Mais il me semble que tu fais cette proposition-là, on se voit qu'une fois et il faudrait savoir dire et c'est tout et c'était très bien et salut.
Alors oui, mais dans la vraie vie, c'est pas ce que je fais et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est que, bon, il y a la partie où quand on partage du sexe, où là c'est clair que l'ocytocine, elle va créer cet attachement. Et c'est pour ça qu'en général, quand on a envie de dire je t'aime à quelqu'un, c'est souvent quand on a partagé du sexe et que c'était super et voilà. Mais cette hormone-là, c'est un peu comme quand on a ses règles. Elle ne dure pas toute la vie. Elle dure quelques jours. Et donc on peut juste attendre ces quelques jours et pas dire que ça ne valait rien. Juste c'était super. C'était vraiment un bon moment. Mais on n'est pas obligé de projeter tout un tas de choses sur la suite. Moi, par exemple, quand je vais avoir mes règles, c'est l'enfer. Et puis plus ça va, moins ça va. C'est vraiment, j'ai envie de me tuer, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est 24-48 heures, mais difficile. À ce moment-là, je le mets dans le calendrier, parce que je veux pas prendre des décisions pour la suite, à ce moment-là. Je sais que je vais avoir mes règles, il faut attendre que ça passe, et c'est pas grave. Et bien sur l'ocytocine, c'est la même chose en positif. C'est vraiment super, c'était vraiment bien. Je nie pas, je veux pas du tout dire, de toute façon, tout ça c'était que chimique. Non, vraiment, c'était un moment important. Voilà. Je sais que c'est aussi des moments importants. Mais je vais rien en traduire pour la suite. Je vais pas avoir d'attente envers l'autre pour la suite. Est-ce que, à partir de maintenant, tous nos samedis soirs, on va les passer ensemble? Est-ce que si jamais le lendemain soir, je flippe à 3h du mat, est-ce que c'est la personne que je vais appeler? Vous voyez? Est-ce que, si je suis hyper joyeuse parce que j'ai vraiment une bonne nouvelle, est-ce que c'est elle que je vais contacter? C'est tout ce genre de choses où, voilà, c'est comment on peut... faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous, pas du tout pour dégrader ce qu'on a vécu, mais simplement pour pas prendre des décisions qui engagent sur la suite. Et après, pour tout le reste, quand il n'y a pas de sexe, ben là, il y a moins d'hormones en jeu, et toute cette complicité-là, elle est chouette, mais je trouve qu'elle laisse plus la place à d'autres personnes, qu'on peut avoir la complicité avec plusieurs personnes, qu'il y a moins de projection aussi de la famille, des amis, de tout le social autour, et que c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à... faire que ça va et ça vient, quoi. Et que donc, on a passé un super moment à jouer de la musique ensemble. Bah, pourquoi pas recommencer, c'est vrai. Et pourquoi attendre une semaine, puisqu'on n'a pas le problème de l'ocytocine, ou peut-être que je ne suis pas assez calée sur la science et les hormones. Mais c'est tout ce genre de choses. C'est voilà, on a bien aimé faire des choses, ou bien, par exemple, j'ai une amie, quand il y a des questions médicales, elle est vraiment là, quoi. C'est-à-dire que je peux l'appeler quand je suis inquiète, quand je dois aller chez le médecin et potentiellement il y a une mauvaise nouvelle, elle va être là. Et ça, c'est un attachement qui est important, mais il n'y a pas toute cette projection aussi du reste. Et du coup, ça fait que si à un moment, elle n'est pas disponible pour ça, ben, c'est pas si grave que ça, je ne vais pas me sentir abandonnée. Je vais peut-être contacter une autre personne et voir. Mais si elle est là, c'est vrai qu'on a cette chose-là qui fait que ça, je sais que ça fonctionne et que c'est chouette qu'elle soit là.
Mais là, ce qu'on entend et qui est hyper touchant, c'est l'amitié. En fait, c'est la position politique de l'amitié dans nos vies, des amitiés. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois, et je pense que c'est un petit peu un fil tendu aussi dans le festival, d'essayer de comprendre en fait comment on peut réussir à avoir des amitiés extrêmement puissantes, profondes, longues, de confiance, des liens hyper sains, en fait, pendant longtemps, sans qu'il y ait eu besoin, en fait, de faire beaucoup de règles, d'expliquer beaucoup de choses, juste c'est fluide en fait. Et donc moi quand je sais ça, parce que typiquement je suis partie de ces chanceuses qui ont vraiment des amitiés très fortes depuis longtemps avec des personnes, voilà. Et quand après on essaye de transposer et de comprendre ce qui cloche, ce qui dérape en fait dans ces fameuses histoires d'amour, bah toi tu nous les présentes quand même assez vite en fait dans le livre et tu poses carrément la question du qu'est-ce qui fragilise en fait dans ces amours-là. Et tu as beaucoup d'honnêteté de dire là où toi en fait, parce que pour arriver à une décision pareille, bah faut quand même qu'il y ait des raisons. Alors. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit très dur, mais en fait, oui, quand même, parce qu'on n'est jamais non plus dans des radicalités, juste comme ça, pourquoi pas pour changer un peu de modèle, quoi. Mmh. Là, on sent bien que c'est un trop-plein, que c'est à un moment donné, tu dis, j'en ai marre de souffrir, en fait, c'est ça.
C'est pas seulement que je voulais plus souffrir, c'est que je voulais renverser un rapport de pouvoir. Mmh. Je voulais plus que me mettre dans ce type de relation ait autant de pouvoir sur moi. Qu'au passage, quand c'était des relations hétérosexuelles, qu'un homme ait autant de pouvoir sur moi. C'est vraiment ça que j'ai essayé de voir, c'est ce rapport de pouvoir-là. C'est comment le fait que d'avoir toutes ces choses-là en mêlée, ça faisait que j'étais coincée, quoi. Par exemple, le fait qu'il y ait... Que la personne qui va me protéger de mes angoisses, par exemple, de la peur de mourir, qui je pense est quelque chose de très partagé, cette personne-là, elle a du pouvoir sur moi. Si ça repose sur une personne, ça lui donne beaucoup de pouvoir. Si ça repose sur plusieurs personnes, ça donne déjà moins de pouvoir. Et ça veut dire que s'il y a ça, plus tout un tas d'autres choses, c'est la personne qui va me comprendre, avec qui j'ai de la complicité, qui représente quelque chose dans ma famille, avec qui, voilà, potentiellement je vais avoir des enfants, ou peut-être trouver une place dans ma famille. Là, je suis très très fragilisée. Et donc c'est pas la peur de souffrir, c'est la peur d'être plus forte, d'être moins fragile en fait. D'être moins, en cas de rupture, de ne pas perdre tout ce que je suis. Parce qu'une personne qui me comprend, qui est la personne qui va être comme un témoin de mon existence, qui va voilà être la personne qui va me faire exister en quelque sorte, et ben en cas de rupture, c'est moi-même qui disparaît. Et c'est ça que je veux plus.
Ouais. Et c'est vrai que là, en fait, ce qu'on entend, donc cet endroit en fait de dire je ne veux pas cesser d'exister parce qu'il y a rupture. Et ça fait plusieurs fois, en effet, que tu utilises ce mot de mort, en fait, et ça raccroche à toute une démonstration que tu as un peu tout au long, en fait, de ton livre, de démontrer, en fait, que, puisqu'une démonstration démontre, hein, bien sûr, aujourd'hui, c'est d'aller voir dans la pop culture, de voir comment on parle, en fait, de ces relations amoureuses. Et donc, tu as cette expression du tragique amoureux. C'est-à-dire que réellement, en fait, il n'y a pas que toi qui es en peur d'amour, etc. C'est-à-dire que dans tout l'imaginaire amoureux, c'est en fait l'image de la mort, au final, qui est constamment réutilisée. Enfin, évidemment, crime passionnel, tout ça. Enfin, on a tout un langage autour de ça. Donc, toute cette enquête que tu as menée, et surtout autour des chansons, en fait, au final.
Ouais, j'aimais bien les chansons parce que c'est quelque chose... Alors, je les ai vraiment pas mises à distance. J'ai pris que des chansons que j'avais aimées, même quand c'est Rihanna, qui m'avaient en quelque sorte construite, ou qui avaient construite mon idée de l'amour. Et donc, par exemple, Rihanna, quand elle dit « When you hold me, I'm alive », quand tu me tiens, je suis vivante, on voit clairement que là, en fait, elle fait reposer son existence sur une autre personne, et en l'occurrence sur un homme. Donc c'est ça qui m'a intéressée, c'est voilà, tout ce qu'on apprend en regardant les chansons, les chansons de la pop culture, mais vraiment comme quelque chose de très intime, pas du tout comme une critique, à part les quelques chansons dont j'ai parlé à la fin, qui légitiment les violences conjugales pour les rattacher à l'amour, où là c'était plus clairement... Enfin voilà, c'est John Lennon qui est un grand défenseur de la paix, qui dit « Attention petite fille, je sais plus comment il le formule exactement, mais si je te vois avec un autre, je te tue, quoi. » Mais c'est explicite, enfin là je suis pas en train d'exagérer. Donc c'était, voilà, celle-là c'est vraiment des critiques. Mais toutes les autres c'est plus, voilà, comme la chanson « Roméo et Juliette » de Dire Straits, bon, qui est aussi liée évidemment à la pièce de Shakespeare, mais qui interroge... toute cette normalisation de on a deux enfants, ce qu'il faut dire ce qu'il y a, Juliette elle a 13 ans, Roméo c'est pas précisé mais il est à peine plus âgé, et ils vivent un amour impossible et donc ils se donnent la mort. Mais si vous avez, enfin, dans quel monde on trouve ça normal en fait? Dans quel monde on trouve ça beau? C'est juste le comble du glauque, enfin c'est juste horrible. Et c'est normalisé et c'est beau. C'est ça aussi la critique, et c'est pourquoi, pourquoi moi aussi j'ai trouvé ça beau, pourquoi ça, comment ça m'a nourri. Comment des chansons comme Manu Chao, Pas assez de toi, je sais pas si vous l'avez en tête, voilà, qui en fait est une chanson qui pour moi était vraiment le comble de l'amour, la passion, etc. Et en fait, quand j'ai relu les paroles, à froid en étant plus âgé, ben oui, c'est ça parle que de violence, ça parle de crever le chat, d'accident de voiture, du sang sur les murs, enfin on a tout en fait, de la violence conjugale, de choses qui sont normalement pathologiques et qui là sont normalisées comme de l'amour, ce qui au passage rend invisible les violences conjugales, parce que finalement ça fait partie de la passion, etc. D'ailleurs on parle bien de crime passionnel. Donc voilà, c'était un peu tout ça, mes questions de... Donc j'ai fait une formation autour des violences conjugales, et là il y a un des formateurs qui expliquait que ce qui permet de différencier la violence conjugale d'un couple ordinaire éventuellement traversé par le conflit, c'est que dans la violence conjugale, il n'y a pas de rupture envisageable, c'est toujours que la mort, en fait, qui est envisageable. Et quand on regarde les chansons, quand on regarde les films, la plupart en tout cas, eh bien, c'est la mort, en fait, qui est au terme, et même ce qu'on dit d'un mariage, voilà, qu'on s'aimera jusqu'à la mort. Du coup, ça brouille vraiment les frontières pour moi, quoi. Si bien qu'à la fin, pour moi, on peut pas dire que les violences conjugales, c'est une bavure. Pour moi, c'est conjugal, en fait. C'est fortement lié à la conjugalité et à l'amour.
Et après, même sans aller jusqu'à la mort, il y a quand même cette idée que pour que l'amour soit suffisant, il y ait cette tension de souffrance, en fait. Qu'en fait, ce soit cette question-là de normaliser le fait d'être pas bien, de pas d'être poussé dans ses retranchements, de devoir s'expliquer de choses. Enfin, il y a quand même. Enfin, tu nous expliques ça aussi par rapport à la jalousie. Enfin, qui est quand même un des sentiments qui est très 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 attaché en fait à la relation amoureuse, comme si pour beaucoup de personnes, ça reste encore sans jalousie, il y a pas d'amour en fait. Ça, c'est... Enfin, et je trouve qu'on le détruit pas assez, cet endroit-là de pensée, en fait. Non, la possession, la jalousie, c'est ce qui amène, en fait, la souffrance, etc. Ça rebondit à ce que tu disais, mais ça ne va pas forcément... Ça peut, hein, mais c'est pas aussi tragique, peut-être, dans les imaginaires. Mais tu en parles pas mal dans ton livre...
Oui, parce que je suis d'accord avec cette idée. Je crois que la jalousie fait partie de l'amour, en fait. Que c'est du coup pour ça aussi que je veux plus d'amour. Parce que pour moi, le fait d'avoir une relation où l'autre personne est unique, elle est prioritaire, eh bien, ça amène le fait qu'il va y avoir de la jalousie. Pour moi, la jalousie n'est pas une émotion qu'on peut mettre au travail. Pour moi, elle vient d'une situation. Et c'est cette situation-là qu'il faut changer. Tant qu'on aura une relation où voilà, l'autre personne est unique pour nous, elle est la plus importante, et ben forcément, il va y avoir des peurs d'abandon. Et puis, cette envie de... Enfin, c'est « I belong to you », c'est... Oui, en fait, ça fait partie de l'amour aussi, d'avoir cette idée qu'on se possède mutuellement, qu'il y a une forme d'appropriation aussi, même si, voilà, elle peut être autre chose que « tu es ma propriété, tu es mon objet », mais en quelque sorte, on se sent un peu à la maison avec l'autre personne, je sais pas comment dire, mais on est dans du familier, quoi, on est dans une possession, mais moins violente que ce qu'on pourrait imaginer d'un homme violent ou d'une personne violente qui veut que l'autre personne soit son objet. Évidemment, on reconnaît toujours que l'autre personne est une personne, justement, et un sujet capable d'agir et de décider, mais malgré tout, je crois qu'il y a quand même cette idée de s'appartenir mutuellement.
Sans vouloir être intrusive, mais je me permets cette question, ça fait combien de temps, en fait, que tu expérimentes ce que tu as écrit, en fait, de ne plus vouloir. Tu sais à quel moment tu as dit je ne tomberai plus en amour?
Ben, oui, parce que c'était un peu avant les UEH dont je parle là, et donc ça doit être 2017.
Ok, donc là tu commences à avoir un temps éprouvé, juste parce que je me dis, on a parfois tendance sur la révolution romantique, ou en tout cas sur ces questions-là, à avoir beaucoup de théories, mais que c'est pas toujours si pratique et facile. C'est pas si facile que de mettre en pratique. Et donc, comment ça va depuis 2017? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est facile? Est-ce que tu t'es... Et encore une fois, je veux pas être intrusive. Hein, je préfère quand même te dire que tu peux encore dire non, c'est trop. Mais parce qu'on se dit... Enfin, il a fallu l'éprouver tout ce temps, de se dire, est-ce que c'est si facile que ça à faire, en fait, de ne pas tomber en amour?
En fait, au début, mais c'est aussi ce qui a donné lieu au livre, ça a été tout un... Parce que je voulais plus des relations amoureuses, mais comme c'est une grosse boîte noire, c'est un peu compliqué de savoir exactement, et puis de voir voilà tout ce qui se met en route aussi. C'est vraiment un automatisme, hein, l'amour. Il y a tout un tas de choses qui se mettent automatiquement en route. Voilà, bon, j'en parle un peu, puis je pourrais lire un passage si ça fait sens ensuite. Mais il y a quand même eu rapidement le sentiment d'une libération, le sentiment d'avoir beaucoup plus de temps pour mes amis, de plus les mettre dans des situations où elles étaient exclues de ça, de plus... voilà, pour moi, j'ai des amis qui se sentent très seules parce qu'elles sont pas en couple, et j'avais l'impression de pouvoir être un peu plus là pour elles en disant, bah en fait, je vais pas te laisser, je vais pas me mettre en couple et mes amitiés vont disparaître, en fait. Donc c'est tout un tas d'éléments comme ça où quand même assez rapidement je sentais que c'était vraiment mieux pour moi, mais ça demande un travail affectif aussi par rapport aux autres personnes avec qui j'étais avec qui je partageais des moments d'intimité ou des relations de sexe, quoi, où je partageais du sexe, voilà. Et tout ça, ça a demandé vraiment de pouvoir déjà arrêter de flipper, parce que les autres personnes sont aussi des personnes qui peuvent décider elles aussi d'arrêter de tomber en amour, et donc il faut pas que je m'inquiète. Voilà, enfin je raconte ça, peut-être si je raconte l'histoire, ce sera plus clair. C'est une amie avec qui je partageais du sexe qui, le jour de mon anniversaire, m'a laissé une petite bouillotte, vous savez, qui se déclenche comme ça, dans ma boîte aux lettres, en forme de cœur, avec marqué « Mon cœur s'enflamme pour toi ». Et là, j'ai flippé. J'ai appelé. Enfin, pour moi, il fallait plus qu'on se voit, on s'était pas comprise. Et en fait, c'était du second degré. En fait, on se comprenait très bien, elle voulait juste me faire rire. Et voilà, donc c'est les moments où, voilà, fallait que je redescende un petit peu et que... Et que oui, on peut se comprendre aussi là-dessus avec d'autres personnes. Donc voilà, et maintenant en fait, à force d'avoir défait la machine, j'ai l'impression que c'est comme si les pièces elles étaient devant moi et ça s'enclenche plus. En fait, ça vient plus, c'est plus vraiment une question.
Très bien, le process a fonctionné, je suis ravie pour toi. Et pour, voilà, si toutes les personnes qui ont envie de prendre cette décision, évidemment, en fait, dans ton livre, tu dénoues, et je pense qu'il y a limite même ce terme-là, d'aller dénouer, en fait, les relations amoureuses et tout le mécanisme amoureux, donc on est dans ce langage-là aussi, d'aller comme ça chercher un peu tout ce qui se joue, et donc ça permet aussi de mettre des clés. Comment on peut y arriver. Et tu le disais juste là, d'avoir ce travail affectif, en fait, d'aller chercher en fait, ce qui joue pour nous personnellement, en fait, dans les relations qu'on a pu avoir amoureuses, et d'aller un petit peu y travailler, parce qu'il y a sans doute des choses qui peuvent être libérées, etc.
Et donc, d'en parler avec les autres, d'être à l'écoute aussi. De passer beaucoup de temps à parler, moi, je pense.
Tu disais que tu avais envie de lire un petit extrait. Si tu veux, c'est ton moment. Tu peux.
Donc, j'avais peut-être imaginé plusieurs extraits, mais celui dont je parlais, c'est comment les choses s'enclenchent un peu de manière automatique. Et c'est celui dans lequel je parle des UEH, donc je vais essayer de le retrouver. Donc, voilà, je suis en plein été, dans un rassemblement queer, au milieu de la campagne, dans le sud de la France. Et on est avec des copines, on est dans la maison d'une de ses amies. Et en gros, on parle de sexe toute la journée, il y a une piscine le soir, c'est la fête tout le temps, quoi. Et donc, c'est pas vraiment le moment où on se dit qu'il y a une relation amoureuse qui va se nouer si on n'en a pas envie. Et là, j'avais déjà décidé de renoncer. Et puis, il se trouve que j'ai partagé du sexe avec une des personnes qui était là, et j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses qui s'enclenchaient, et je les ai notées pour justement essayer de ensuite les interroger. Donc, je vous lis ce passage. Au lendemain du jour où pour la première fois nous avions partagé du sexe, j'ai par exemple constaté que je l'appelais d'un coup « mon Hélène ». Qu'il me paraissait d'une certaine façon normal de prendre le petit déjeuner avec sa famille et pas en dehors, à côté de ma tante. Que je réfléchissais à mon programme de l'automne pour lui faire de la place. Qu'elle devenait prioritaire sur d'autres personnes que j'avais prévu de voir. Que soudain j'estimais légitime de me dire lesbienne et je craignais que ça ne soit plus le cas si nous cessions d'avoir du sexe ensemble. Que nous prenions plaisir à nous rappeler des souvenirs communs, les moments où nous avions fait équipe toutes les deux contre les mâles du réseau dans lequel on s'était rencontrés. Que chaque fois que je traversais quelque chose de difficile ou pénible, je m'évadais en pensée, dans une évocation de nos moments intimes qui dressaient comme une barrière protectrice entre le monde et moi. Que lorsque je parlais à une autre personne en sa présence, j'avais l'impression de m'adresser en même temps à elle, Hélène, dans un aparté continu. Et que j'hésitais à la contredire dans les discussions à plusieurs. Que l'idée qu'elle drague d'autres femmes me faisait un petit pincement au cœur, et que donc, soudain, le contexte hypersexuel des UEH devenait inconfortable. Que je voulais être particulière pour elle, différente, à part, prioritaire, et que oui, c'était né au moment où, dans ma petite tente, nous avions partagé du sexe.
Suspense. Que s'est-il passé ? En fait, hier, on a fait une rencontre avec Amour Adulte, qui ont, elles, une proposition, donc Chien Fou et Nathalie Sejean, qui permet d'imaginer, en fait, des histoires d'amour à un autre endroit, qui sortirait, en fait, de tout ce que tu... En fait, elle n'arrête pas d'être en amour, mais elle change la façon dont elles sont en amour. Et donc, tu vois, là, ma réaction de te dire « Et après, suspense ?» Parce que moi, je pense que je suis encore dans la team qui va essayer de changer les choses. Mais je trouve ça génial qu'on ait d'une certaine manière aussi une solution de dire « bah en fait, c'est tout. On a essayé, ça marche pas, ça nous convient pas, et c'est OK. » En fait, on peut créer une société où c'est OK de ne pas être en amour.
Complètement. Mais je pense que si vous continuez à avancer sur ces questions-là et que vous trouvez des solutions, c'est possible qu'à la fin, on se retrouve, en fait. C'est possible qu'on crée des bulles de part et d'autre et on n'aura pas les mêmes mots. Et,
c'est ça.
Et voilà. Mais ce livre, en fait, c'est vraiment une boîte à outils. C'est pas un manifeste. C'est un récit et c'est une boîte à outils dans le sens où si ça vous parle, vous utilisez les outils qui vous semblent bien. Est-ce que c'est un marteau, un tournevis ou une clé à molette? Et si ça parle pas, ou si c'est pas le bon moment, ou si voilà, ça reste là, et voilà. J'avais juste, moi, l'impression que ça pouvait être utile à des amis à moi, et j'avais du mal à m'expliquer à l'oral, donc j'ai pris le temps d'écrire. Effectivement, ça, c'était plus simple, voilà, pour leur expliquer tout ça. Et puis ensuite, c'est devenu un livre, mais...
Qui se vend très bien, donc je pense que tu n'es t'es pas seule hein, à se poser ces questions-là. Bravo pour cette intuition. Donc, voilà, nous sommes arrivés au dernier lancement des cubes d'amour. C'est le moment poétique. Alors, je ne suis toujours pas douée à faire des tambours, ou en tout cas un battement comme ça, mais je vais quand même le faire, parce que c'est le process, c'est le protocole. Donc, c'est le moment des cubes d'amour.
Ça marche.
Un petit peu.
Quand même. Donc je les prends dans mes mains.
Tu fais comme tu veux. Et l'idée, c'est de faire une poésie d'amour de suite. Parce que malgré tout, allez.
Alors ah, j'ai une contrainte avec un mot en moins. Mais là, j'en ai trois en l'air. Merci pour l'air. Donc. Un peu intimidant. Donc la première, c'est en trois cubes. Mollement, la nuit bouge. Et la seconde, un peu plus bancale, mais c'est poétique. Mais l'air de l'œil, la joie surprend. Voilà.
TikTok.
Merci pour ces cubes.
Merci beaucoup, Magé.
Merci à toi, merci à toute la franchise pour l'invitation.
Avec grand plaisir.
Et merci.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Magé à l'occasion de la publication de son livre « Ne plus tomber en amour, récit d'une dissidence affective » aux éditions X. Le Festival d'amour, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien Fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec La Franchie Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.